Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Labrade, K.R., Kevin, Raphaël.
Comme à chaque semaine, Pat crie dans le micro, crie dans vos oreilles, mais c'est correct.
C'est à chaque deux semaines.
Ouais, c'est vrai, on est aux deux semaines. Sauf que les gens veulent qu'on soit aux semaines. C'est incroyable. Votre réponse sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur iTunes, Spotify. C'est quoi les autres?
Oh, tu t'en rappelles pas, hein?
Stitcher!
OK.
Puis l'autre, c'est Google Play!
Oh, wow! Bravo, Kevin!
N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et des 5 étoiles, 5 stars, Frog Splash. Avant de commencer avec les nouvelles, juste lire les tweets des gens parce que c'est incroyable tout l'amour que vous nous envoyez via les réseaux sociaux. At Pat Laprade et at Kevin Raphaël 21. Vinity, qui était à Double or Nothing, qui nous a envoyé un gars de Montréal qui regarde deux gars de Winnipeg lutter à Las Vegas. What a great night.
C'est fou pareil quand tu y penses.
C'est incroyable, hein? Après ça, t'as Martin Aloulou qui nous dit les mercredis suivants, le pay-per-view de la WWE, at Pat Laprade et at Kevin Raphaël 21 doivent produire un podcast tout chaud pour revenir sur ce qui s'est passé au pay-per-view et à Raw et à SmackDown, les fans de lutte ont besoin d'avoir du contenu dans un intervalle plus court que les deux semaines prévues dans ta pipe, Cube!
Cube Radio, c'est pour toi, ça, là, ouais. Ce message-là. Ouais.
Le dernier, Pat, il est pour toi, c'est Nelson C qui nous envoie. Il y en a beaucoup, mais on a choisi 3 par semaine. Guys, on peut pas tout vous lire. Le podcast, c'est 45 minutes et t'as 2 semaines. Nelson C écrit, Pat semble jaloux de tes connaissances en matière de lutte, Kevin. Fais attention, tous les heels turn furent causés par la jalousie intense comme la sienne. Merci,
attends
Nelson.
Là, j'ai quelque chose à ajouter parce que Nelson nous dit ça suite au dernier podcast où il y a eu une controverse autour de Carmella puis du nombre de Money in the Bank qu'elle a gagné. Et moi, j'ai des preuves qu'elle en a gagné juste un, mon cher Kevin.
Non, elle en a gagné deux.
OK, attends une minute. Laisse-moi aller. Money in the Bank 2017, c'était le tout premier Money in the Bank féminin.
Oui.
C'est, si tu te rappelles bien, James Ellsworth qui a décroché la valise en haut, qui l'a donnée à Carmella. Et là, ensuite, parce que moi, je suis un historien. Moi, j'ai été retourné voir le footage. Moi, tu iras sur le WWE Network.
Je sais ce que tu vas dire, là.
Et là, il y a les arbitres. Il y a 3 arbitres qui discutent, puis qui chamaillent, puis qui, en bout de ligne, ne prennent jamais une décision. James Ellsworth se tanne, prend le micro et annonce Carmella comme la gagnante. L'annonceur a jamais annoncé Carmella. Les arbitres ont jamais pris leur décision. Deux jours après, à SmackDown, Daniel Bryan dit, c'est parce que j'ai été revoir SmackDown en plus.
C'était une mauvaise
Daniel Bryan a été dire, vous avez des bons arguments, mais en même temps, c'est pas le but de Money in the Bank que quelqu'un d'autre décroche. La semaine prochaine, vous allez avoir un rematch, puis ça va déclarer la vraie gagnante. Et là, c'est là que Carmella a gagné. Donc, le premier, elle l'a pas vraiment gagné. Ça a jamais été officialisé. Merci. Bonsoir. I rest my case. Tu peux passer un bon reste de show. Kevin Raphaël. Et tous ceux sur Twitter qui m'ont intimidé. On m'a bully, là, pendant une semaine en me disant c'est Kevin qui a raison, elle a gagné deux. J'ai maintenant les preuves. Retournez. Faites vos devoirs comme moi. Je suis l'historien de la lutte.
Pour de vrai. D'habitude, je t'aurais insulté, mais en ce moment, je suis chouque. Pour vrai, je te lève mon chapeau, Pat Laprade. Je le ferai pas pour vrai parce que je commence à être chauve, mais je te lève mon chapeau, Pat Laprade. Mais je pense que c'est le temps qu'on rentre dans les nouvelles. Je pense que les gens veulent nous entendre parler de Double or Nothing.
Hey,
donc,
écoute,
on y va. Double or Nothing, c'était samedi dernier. Tout un show, une carte. En fait, premièrement, avant de parler des matchs ou de l'apparition de Dean Ambrose, a.k.a. John Moxley,
C'est l'inverse, John Moxley, formerly known FKA.
Premièrement, sur 10, c'est quoi ta note sur le show?
Ah, 12.
OK, là, t'abuses. Là.
OK, j'abuse un peu, mais facile, c'est 10 sur 10.
OK.
Moi, il n'y a rien. Ah, OK, 9.9.
Hey, tu gosses.
Non, je gosse, c'est les commentaires. Honnêtement, Alex Marvez, c'était sa première expérience, je comprends, mais il était franchement mauvais.
Ouais.
Jim Ross, écoute, on dirait qu'il a été on and off, JR, il a pas été. Je l'ai déjà entendu meilleur. Je sais pas si.
Ben, regarde, nous, on est commentateurs à TVA
oui,
Sports.
C'est pour ça que je me sens mal de juger, mais
non,
en
non,
même
non,
temps.
Non, mais dans le sens que je pense que les gens, ils vont pouvoir voir comment que nous, on voit ça parce que nous, ouais. on le fait. Alex, whatever, son Marvez, famille, là, ouais. j'ai trouvé qu'il avait l'air stressé. J'ai trouvé, tu sais, surtout quand les gars, ils tombaient on cam, ils sont tombés on cam souvent. Il avait l'air stressé.
Ah, il avait l'air stressé. À un moment donné, on dirait qu'il cherchait l'approbation ouais. toujours de JR.
Exactement.
Et il y avait un thème de voix assez monotone. Ouais. C'était, tu sais, sur un même ton. Là.
JR, je comprends pourquoi il est plus à WWE. Le seul point fort de JR dans le show, c'est quand John Moxley est arrivé. Puis ça nous a juste ramené en ouais. arrière. C'est le début de show puis la fin de show. Le MVP, et je pense que la semaine prochaine, on va avoir notre show spécial des récompenses à la mi-saison.
Ouais.
Excalibur, là.
Pas la semaine prochaine, mais dans deux
semaines. Je me trompe tout le temps, mais c'est on est aux deux semaines. C'est poche.
Excalibur, là.
Lui, c'est le MVP, là. Je m'excuse, mais de tout le show, c'est le gars que je suis ressorti en me disant... Il va me donner le goût d'écouter AEW.
Ben écoute, c'était lui en fait qui a eu la job de décrire l'action ouais. beaucoup plus que JR.
Ben oui,
JR punchait,
pas.
JR punchait, ouais. c'était tout. Mais Excalibur, as-tu déjà écouté des DVD de PWG?
Ben non, mais là je vais commencer à aller. Si j'écoutais des matchs, mais
moi j'ai des DVD, j'ai souvent ouais. écouté Excalibur et excellent. Il connaît sa lutte, il connaît ses moves. Il y a une voix qui est le fun, qui est intéressante. Ouais. Puis habituellement, PWG faisait ça avec toujours un lutteur différent. Kevin Steen, Kevin Owens le fait souvent. Ben, il y a plein d'autres mondes qui l'ont fait avec lui. Mais pour vrai, là, il a été une chance qu'il était là.
Ouais, pas juste le fait qu'il connaisse sa lutte, mais tout le backstory qu'il y avait pour chaque
oui.
lutteur, chaque lutteuse, du monde de Chine, il était préparé. Puis moi, ça, là, ça me donne le goût de l'écouter à TNT.
C'est des Japonais qui luttent
Yo,
en
Pat,
Chine. Mais,
commence
mais non,
pas,
mais, non, non, mais,
Pat,
mais,
pour
mais
le
c'est
vrai,
un détail.
Je commence à être de bonne humeur, là, comment ça?
Mais pour vrai, si j'avais une suggestion à faire, c'est à All Out, puis on va en parler tantôt. Ouais. Je garderais uniquement JR et Excalibur et j'enlèverais Alex.
Moi, je donnerais une chance, là. Moi, tu sais, je pense que jusqu'à TNT, juste avant qu'on aille le vrai show télé, je pense qu'on peut tester tout le monde.
C'est peut-être pas une vilaine idée. C'est peut-être pas une vilaine idée.
On va donner plus qu'un show à Alex, puis on verra après. Moi, je donne une note de 8.5
oh, wow,
sur 10.
T'es sévère.
Puis, c'est pas la lutte en tant que telle, c'est la production. Moi, là, à un moment donné, il y a les high spots, il faut les avoir sur caméra. Combien de fois ils ont changé de cam puis ils ont manqué le move? Ça, c'est la première chose. Le 619 du gars pas de jambes, là, mais je veux le voir. Comment ça, ils ont changé de cam pour une autre chose? Deuxièmement, le pre-show était pas bon. C'est un des pires pre-shows que j'ai jamais vu de ma vie. Le battle roll, il marchait pas. Il y avait pas de musique. Des fois, il y avait de la musique. Il y avait un compte à rebours. Des fois, il y avait pas de compte à rebours. Il rentrait 5, il rentrait 4. On comprend. C'est bien trop compliqué, là. Faites juste une affaire normale, puis on est content de voir tous les lutteurs qui sont là. Ils sont tous bons.
En fait, je pense que t'as juste... écoute, pour vrai, pour ce qui est de la production, effectivement, c'est l'autre point négatif que les gens ont relevé. Moi, ça m'a pas tant dérangé.
Oh
pis,
my God.
Moi, je suis prêt. Moi, c'est justement ça, je suis beaucoup plus apte à leur donner une chance parce que c'est sûr qu'ils vont s'améliorer,
oui.
c'est leur premier show.
Mais
ils vont. Ouais, mais moi, ça m'a pas tant dérangé. La Battle Royale, ils ont toujours été 5. C'était 5.
Je sais.
Il fallait que ça rende à 21. 4 fois 5 plus 1 qui
sais,
était
mais,
le Joker.
Mettons le premier, la première batch qui est rentrée, il n'y a même pas de musique, il n'y a pas de compte à rebours. Deuxième batch, Justin Roberts prend le micro et fait. Tu sais, ça avait l'air d'être un processus.
Ben, il aurait fallu qu'il rode un peu,
c'est
mais
ça,
en même temps, ils l'ont rodé. Mais je pense que les Bucks l'ont dit en entrevue par la suite ou dans le post-conference
ouais, ouais.
show que Crème, ils ont réalisé c'est du stock là, faire un show. Puis
ah, ouais.
Lutter en plus dessus. Moi, sur la scène indépendante, je le vois, puis c'est aucunement la qualité
et
la magnitude de ce show-là. Mais sur la scène indépendante, il y a des bookers qui ont de la misère justement à lutter puis à être sur puis à s'occuper du show
ouais,
parce
ouais.
que c'est très demandant. Je pense que les Bucks et Cody s'en aperçoivent.
C'est pour ça que je donne un 8.5. Puis l'autre affaire, surtout dans le match, le premier match, le match Shima et son crew contre SCU.
Ouais.
Il changeait de cam vraiment souvent. Vous irez retourner voir ce match-là. Il changeait de cam au même pas de 2 secondes. Il laissait pas le match respirer comme si il voulait que la production soit les high spots du match, tu sais. Puis moi, j'haïs ça, tu sais, je suis comme, guys, focusser sur une cam, on voit le move, après ça, on change de cam. Tu sais, ça, c'est des petits détails, mais moi, je trouve ça vraiment important dans mon appréciation parce que ça te donne mal au cœur à la fin du match, puis je suis un bébé là-là. Là, Omega contre Chris Jericho, t'en as pensé quoi?
Ben, écoute, on peut-tu y aller en ordre, Kev? On peut-tu y aller? Parce que, bon, juste pour poser quelque chose. Ouais, parce que SCU contre...
Adoré ce match-là.
Écoute, c'était un super bon opener. 3 contre 3, de l'action. La promo de SCU au début a été, tu sais, super correct. Ça, pour ceux qui les connaissaient pas, ils les connaissaient après. C'est ça. Et ça a eu plein de sens. Mais ce que j'ai aimé du show, c'est qu'il y a eu un crescendo. Moi, c'est ce que j'aime d'un show de lutte. C'est ton premier match, ton deuxième match, c'est pas censé être des five-star matchs. Faut à un moment donné ta finale, puis tu sais, tes des deux, trois derniers matchs, ça soit eux autres tes meilleurs matchs. Puis je pense que ça a été ça, Double or Nothing. Tu sais, le premier match a livré, il y a pas eu de mauvais match, ça a été...
J'ai pas aimé le 3 contre 3 avec Aja Kong, là.
T'as pas aimé?
J'ai détesté ce match-là.
Ben, voyons donc!
Mais c'est peut-être... Puis là, je vais vous dire la vérité, les fans de lutte, là... J'écoutais Game 6 en même temps. Puis pendant le match de Aja Kong,
Vrai, t'avais dans le ring 6. T'avais là ce qu'on reproche souvent à. Ce qu'on a longtemps reproché à la lutte féminine. C'est-à-dire de pas être capable, tu sais, de lutter puis d'avoir vraiment, tu sais, des moves qui
serait comparable aux boys, là.
Ouais. Et là, t'avais 6 femmes là-dedans, des japonaises qui savent lutter que le tabarouette. Et pour vrai, ça a été probablement un meilleur match que le four-way avec Britt Baker puis avec Awesome Kong. Et ça veut pas dire que ça a pas été un bon match, le four-way. Je veux juste dire que ça a été un meilleur match.
Moi, j'ai apprécié plus le four-way parce que je trouvais
qu'il y avait... Parce que tu l'as écouté plus.
Ben, il y a ça, mais je trouvais... Ben, ils ont pas attiré mon attention à Jack Kong et son crew. Tandis que le four-way, il y avait déjà un storyline d'installer. Quand...
Ça se pourrait-tu aussi parce que tu connaissais déjà des filles dans le four-way puis tu connaissais
peut-être,
pas personne
dans
Six Women?
Il y a peut-être ça, mais... Tu sais, quand la blonde de quand Brandy, Chief Officer, est arrivé, puis tu sais, est arrivé en ring gear, j'ai fait OK, bon, là, elle s'injecte dans le match.
C'était parfait, ça.
Là, j'ai dit OK, ben, je vais l'écouter parce que je vais avoir un accident d'auto, tu sais.
Ouais.
Puis après ça, c'est Awesome Kong qui arrive.
Ben, en fait, son choix de mots était tellement bon. Elle a dit je voulais pas que ça soit un good match, je voulais que ça soit un awesome match. Puis le Awesome Kong sort, c'était comme, ben, voyons donc, ils l'ont sorti d'où. Elle avait presque pas lutté dans les dernières années. Et pour
c'est
vrai,
faisait Glow, là, pour ceux qui le savent pas, elle jouait dans l'émission Glow.
Ben, celle qui a lutté sous le nom de Karma à la WWE et Awesome Kong à Impact TNA. Mais Britt Baker, tu vois vraiment que c'est la lutteuse qu'on veut mettre à l'avant-plan. Et pour vrai, ben, c'est un excellent choix. C'est une histoire tellement unique. Tu sais, moi, Britt, je la connais personnellement. Puis elle a fini tout récemment là, son doctorat pour être dentiste. Elle est dentiste. Elle peut legit péter les dents à quelqu'un et
les réparer.
Et les réparer tout de suite après. Je veux dire, c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que, ben, tu vois, les premiers matchs, tu sais, c'est ce que je chantais comme réaction. Il y en a qui ont aimé plus un match que l'autre. Il y en a qui ont moins aimé certains de ces matchs-là. Mais en bout de ligne, les trois derniers,
incroyable.
Ils ont tellement livré la marchandise. Allons-y. C'est ça, j'aime. C'est un crescendo qui a monté. Le match, le premier des trois, ça a été les Rhodes.
Ben, avant qu'on parle des Rhodes, j'écoutais une entrevue de Tony Khan à Busted Open.
Tony Khan, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le propriétaire
Vince McMahon,
AEW. Exact.
Puis il disait, puis je trouvais ça particulier parce qu'on n'allait jamais backstage, j'avais pas de backstage skit, j'avais pas de promo, y a rien, tu sais, tout se passait dans le ring, puis il disait, moi c'est comme ça, je veux que ça fonctionne. Puis plus il parlait, plus je disais, mais c'est vrai, les promos, ils peuvent les faire dans le ring. Là, c'est sûr que ça te limite pour faire des comedy stints à l'extérieur du ring, mais... si c'est comme ça à TNT, moi j'embarque là. J'aime le fait qu'on soit dans le ring. Je trouvais qu'on coupait trop aux annonceurs. On coupait ben trop aux annonceurs.
Ça a été overkill. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est des détails qui vont s'ajuster
avec
le temps. Mais oui, absolument. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que ça a été vraiment traité comme un événement sportif. Ouais. Il y avait une conférence de presse après pour justement recueillir les commentaires. Il y avait des passes médias. Là, les journalistes avaient accès aux lutteurs après, chose qu'on voit jamais, mais chose qu'on voit dans le football, qu'on voit dans la NBA. NBA, qu'on voit dans la NHL, ils veulent vraiment traiter ça comme un sport. Et pour vrai, ça pourrait vraiment être un game changer.
Ben, c'est parce que tu veux que les lutteurs créent des relations avec les journalistes. Puis après ça, les journalistes, ils vont en faire la promotion. Puis, tu sais, je pense que c'est Cortez, là, la jeune dame qui veut être sénateur ou super revendicatrice aux États-Unis, elle est suivie par 5 millions de personnes sur Twitter, puis elle a reposté un truc que Cody Rhodes avait dit sur l'inclusivité, les transgenres, les Afro-Américains, etc. Puis j'ai fait « Oh my God, il n'y a aucune chance que WWE dise un truc de même qu'il soit reposté. Mm-hmm. » Eux, ils s'en vont en Arabie Saoudite. On m'en parlait tantôt, ils s'en vont en Arabie Saoudite pendant que...
Hey, c'est un mot qu'il faut pas dire, c'est Arabie Saoudite.
Ah, c'est vrai, excuse-moi. S'en vont à Jeddah.
Super showdown. Jeddah.
On va pas le dire quand ça va en Arabie Saoudite.
C'est comme si on y allait pas.
On va parler tantôt.
Si moi je me ferme les yeux, t'es plus là, Kevin.
Ah, ben oui. C'est juste que Becky Lynch, ben, elle sera pas là.
Mais il y en a beaucoup qui sont pas là.
Ouais, c'est ça. Là, les Rhodes.
Les Rhodes, là.
Adoré ce match-là. Le storytelling était... Tu sais, à chaque fois qu'on va voir un show indie, ben, on était juste une fois ensemble, mais c'est quoi que je t'ai dit?
Cette fois-là.
Ouais, c'est quoi que je t'ai dit? Je t'ai dit, get, il n'y a pas de storytelling. Moi, je suis un gars de storytelling. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de 800 flips. J'ai besoin d'un bon storytelling. Il n'y avait pas 800 flips dans ce match-là, mais...
Je vais te faire une confession, puis à tous ceux qui nous écoutent, là. À la fin, OK? Quand Cody...
C'est ça, t'as braillé.
Cody, il finit par battre Dustin. Dustin a la face pleine de sang. Son père aurait été fier, là. Un Crimson Mask, là, pour vrai, là. C'était, tu sais, pour ceux qui ont aimé la vieille lutte avec ça, c'était vraiment superbe. Et en bout de ligne, Cody prend le micro. Et Cody, c'est le heel, Dustin, le babyface. Là, Cody qui dit « Au prochain show, j'ai mis mon nom sur un contrat pour affronter les Young Bucks et j'ai pas besoin d'un partner pour ce show-là. J'ai pas besoin d'un... » Tu sais ce qu'il a dit?
Ben,
il a dit
les gens partner, qui écoutent le podcast, ils l'ont vu.
C'est pas grave. Il a dit « J'ai pas besoin d'un partner. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai besoin, c'est de mon frère. Tu sais, de mon frère le plus vieux. Je te jure. » Je suis parti à pleurer. Là, j'ai pleuré. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai pleuré pour quelque chose en lien avec la lutte.
Come on!
Hey! Hey! C'est pas correct, ça. Vous me boulez, là.
Non, je suis encore
bouli, là.
OK, regarde. Sur Twitter.
Je m'exprime. J'ai pleuré. Bon. Pour vrai, j'ai pleuré.
Sur Twitter, s'il y a d'autres gens qui ont pleuré, allez supporter Pat Lapral. Oui. Pat Lapral.
Mais ça veut juste dire que ça a marché.
C'était
de l'émotion à l'état pur.
C'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai pleuré pour Kofi. OK? C'est pas pour la même chose.
Non, mais t'as raison.
Mais j'ai pas vu un angle de même depuis longtemps. Et, il y a eu le close-up, là, puis que le sang, il coulait, là.
Ouais, c'était une fontaine.
C'était une fontaine. Ouais. C'était dégueulasse.
C'est un robinet, en fait, là. C'est un robinet ouvert. Là.
Je veux plus jamais voir ça à la lutte. On est en 2010, puis je sais que ça ajoute au match, puis c'est vrai, ça a ajouté au match, mais...
Mais c'était pas censé saigner comme ça.
Mais j'ai pas besoin de voir ça comme ça, guys. C'est fini. On a passé à d'autres choses. On est rendu des adultes. Merci, Dustin, de t'être coupé comme ça.
Legit, ça a été un maudit bon match.
Excellent match.
Match que la WWE a jamais voulu faire.
C'est fou, hein?
C'est complètement fou.
Goldust, là?
Ouais.
Si c'était la WWE, à ce moment, il courait après R-Truth pour le 24/7.
Effectivement.
Puis là, à AEW, il était
de toute façon,
le meilleur match de la carte.
Mais de toute façon, selon Vince Russo, tout ça, c'est un work. Puis la WWE est propriétaire de la AEW.
Ouais, mais Vince Russo, il est encore sous.
Fait que Dustin travaille encore pour la WWE.
Ah, c'est ça.
Ouais, exact.
By the way, John Moxley sur le podcast de Chris Jericho, je l'ai écouté tantôt. Je sais pas si
je l'ai pas écouté, mais j'ai lu le transcript.
Ouais.
Et c'est incroyable. Mais on peut-tu plus on va y arriver.
Young Bucks contre les Lucha Brothers.
C'était Wrestling Tag Team 101.
Les deux meilleurs. Oh, on a oublié les Best Friends. Le match des Best Friends qui était très bon.
Best Friends contre...
contre les partenaires qui étaient mal habillés. Là. Moi, s'il y a une affaire que je veux reprocher à AEW, là, c'est que, guys, là, je sais que les gars sont lutteurs indépendants, puis là, il faut upgrade les costumes. Là, parce que les deux partenaires qui ont affronté les Best Friends, là, j'ai failli arrêter d'écouter le match, là.
Non, okay? Non.
Parce que, sérieusement, le vert flash de même, le body suit, presque le morph suit, là, guys, C'est du bon tag team wrestling, c'est bon pour la business. Ces deux équipes-là étaient meilleures que tout ce qui se passe à la WWE en ce moment, parce que les Usos, mon tag team top 5, en ce moment, ils font rien avec eux. Fait ils étaient meilleurs que tout ce qui se passe à la WWE.
Ah, mais là, tu parles d'Angelico puis Jack Evans.
Ouais.
Ben oui, mais c'est leur gimmick. Il y avait ce costume-là
m'en
quand ils étaient ensemble au Mexique.
M'en fous que c'est leur gimmick. Je veux pas voir ça dans ma télévision.
Moi, j'aimais ça.
Premièrement, matcher. Je veux des couleurs différentes pour les deux équipes. Puis je veux des looks différents pour les deux équipes.
Là, t'en veux pas mal d'affaires pour quelqu'un qui a pas de pièce dans cette compagnie-là.
Mais non, mais c'est parce que t'écoutes un tag team match, t'écoutes un match de lutte, là. Tu sais, je l'écoute avec quelqu'un qui l'a jamais écouté. Là, moi, je l'écoutais avec Katou. Il y avait Emilio avec nous. Puis tu sais, Kat, elle disait, mais son nom est laid. C'est comme, je suis d'accord avec toi.
Ah, ben oui, mais tout uniforme est pas nécessairement beau pour tout le monde, là.
Nous, mais en tout cas.
Mais dans ce match-là, puis t'as raison, une chance, tu l'as mentionné, dans ce match-là, c'est parce que ça aurait été le fun que tu mettes, mettons, les résultats des matchs dans le pacing de notre show. Ouais, ça nous aurait permis de pas l'oublier.
De chaque match.
Mais non, je veux pas parler de chaque match, mais dans ce match-là, il y a deux Québécois qui sont intervenus à la toute fin.
À la fin!
Super Smash Brothers, Evil Uno, Stu Grayson, que je connais depuis des années. Écoute, c'est vraiment le fun. On savait qu'il y avait, qu'ils s'en allaient avec AEW, mais là, ça a été leur première apparition, puis on leur en a donné beaucoup, là. Oui,
ben,
les fans.
Ils leur en ont donné trop, là.
Les fans sur place semblaient pas vraiment savoir qui c'était.
Ben, pas juste sur place, je te dirais que même en ligne, là, je lisais, moi, dans le fond, en écoutant Double or Nothing, je suivais mon timeline Twitter, puis.
Ils savaient pas c'était qui, mais c'est pas grave. L'important, c'est que là, ils vont savoir c'est qui.
Non, mais je comprends. Mais si tu fais la gimmick que tu fermes les lumières, là, c'est mieux d'être Undertaker. Ou tu comprends ce que je veux dire? Je te dis pas Undertaker pour vrai, mais tu comprends ce que je veux dire.
En même temps, c'est de même que tu crées des stars, Kevin.
Oui, mais tu peux pas
c'est en les mettant sur une plateforme.
Je sais.
Mais pour que le monde s'en souvienne.
Tu peux pas. Mais oui, mais.
Mais oui, c'est de même.
Non,
c'est ça,
j'suis
de la WWE fait pas.
Mais je suis pas d'accord de la façon qu'ils l'ont fait. Parce que là, les gens, ils vont se rappeler qu'il y a deux patinets qui se sont fait chanter Who Are You.
Ouais, mais c'est pas grave. Les gens vont se rappeler pareil d'eux autres. Et là, après ça, le rôle de la promotion, c'est de continuer à les pousser.
Oui, je sais.
S'ils leur font perdre leur premier match, là, c'est fini. Mais si tu continues à les pousser, là, le monde va savoir
ouais,
c'est qui.
Mais pourquoi tu fais cet angle-là? Il aurait pu faire 1000 autres affaires. C'est, puis il aurait pu faire autre chose. Fais les lumières, toutes les lumières, c'est mieux d'être une star. Parce que les gens s'attendent à ça. C'est comme quand t'as un partenaire spécial. Là, je sais que pour le Firefest, il y a un partenaire spécial. Yo, c'est mieux d'être quelqu'un de spécial pour vrai. Donne-moi pas un R-Truth, là.
Moi, je pense tout simplement ça les aide à créer des stars. Mais on revient au Lucha Bro et au Young Bucks.
C'était gros match.
Les Young Bucks ont même dit après qu'il y avait eu moins de temps pour le planifier qu'ils voulaient parce que justement, ils ont couru partout toute la journée. Et ça, je les comprends pour avoir déjà roulé des shows.
Tu veux dire combien de fois? Ça fait 3 fois, tu le dis. Tu veux-tu le répéter? T'as déjà roulé des shows, Pat Laprade?
Hey, Kevin, si tu savais le nombre de fois que tu répétais tes affaires, là, commence pas.
Sacré dans le podcast.
Commence pas, là. Si tu me cherches, tu vas me trouver aujourd'hui.
Je suis devant toi.
Ouais, t'étais vraiment pas loin en plus parce qu'on n'est pas dans le même studio.
Je sais, on est tellement proche.
Ça n'a aucun bon sens. T'es beaucoup trop proche. Tu vois, ça, c'est wrong.
Fred est au milieu de nous autres, c'est l'arbitre. Là,
c'est
tout fou. Passe bien.
Ouais. Donc, pour vrai, gros match. Kenny Omega. Et Chris Jericho. Excuse-moi.
Non, on va finir notre match sur Lucha Bros contre les Bucks.
Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre?
Ben moi, je veux te dire que c'est le meilleur match par équipe que j'ai vu depuis très, très, très longtemps.
Absolument.
Puis je pense que c'est le match par équipe de l'année, mais je pense que c'est le match par équipe de la nouvelle décennie.
Ben écoute, pour vrai, là.
Parce que ce match-là faisait aucun sens.
C'est de la lutte. Les Bucks, un de leurs, pas de leurs défis, mais une des choses qu'ils veulent absolument faire, c'est remettre la lutte par équipe sur la map, ce que la WWE fait pas en ce moment. Et je pense que ce match-là part bien cette nouvelle vision.
Puis tu veux-tu savoir, les Young Bucks, on leur reprochait tout le temps. Il n'y a pas de storytelling. Le storytelling était.
Ça.
Non, mais avant que Matt Jackson se blesse au dos puis qu'il s'est à son dos pendant 1 an et demi, il n'y avait pas de storytelling dans le match des Bucks. C'était des super kicks puis des flips. Là. Mais maintenant, le storytelling est là. Le storytelling est bon. Puis, man, c'est quoi son nom? C'est Nick, les cheveux blonds.
Nick.
Maga Nick. Nick, puis le gars, le petit, pas le grand, là. Nick, puis Phoenix, là. Je veux voir.
Tu parles, Nick?
Nick Jackson.
Ah, OK, OK.
Ouais,
c'est
Nick
beau.
Jackson, puis Phoenix. Je veux un match 1 contre 1. Parce que ces deux gars-là, ils ont volé le show, là, au complet, là. On peut parler d'Omega Jericho, vas-y.
Omega Jericho, écoute, quel match?
Match était bien. Il était pas meilleur que. Il était pas meilleur que celui au Japon, par exemple.
Non, je suis d'accord avec toi, mais c'était un solide match, une très, très bonne finale. Je pense que les gens s'attendaient à voir Omega gagner.
Ouais.
Fait que de voir Jericho, ça crée toujours un élément un peu de surprise. C'est correct aussi. Eux, ils ont un plan, puis ils savent où ils s'en vont. Puis je pense que je leur fais confiance. Je sais qu'ils vont, tu sais, ils vont pas faire quelque chose qui va s'en aller tout croche. Et ben évidemment, à la fin... John Moxley qui arrive et qui sort de la foule et qui intervient. Écoute,
avant de parler de John Moxley, je veux juste mentionner que le Judas Effect, le nouveau move de Chris Jericho, super bon.
Oui.
Shane l'a mieux fait cette semaine.
Quoi?
Shane a mieux fait le Judas Effect.
Réécoute. Hey, non, je l'ai réécouté parce que
Celui de Shane était plus beau que Chris Jericho.
Je l'ai réécouté parce que Meltzer en a parlé justement.
Okay, ben,
puis quand il en a parlé, j'ai été réécouté.
Okay, bravo.
Et j'ai comme fait, c'était mauvais.
Je te dis pas que je parle pas des matchs, je te parle juste des.
Shane McMahon, c'était mauvais.
Ils ont les deux moves, mais les côte à côte, celui de Shane était meilleur. J'ai retourné. Quand j'ai vu que Shane a fait le Judas Effect, j'ai fait, je vais aller voir celui de Jericho voir. Clairement, c'était la WWE qui
tu dis n'importe pas, okay. quoi.
Ben, toi, tu dis n'importe quoi.
Non.
Puis,
j'ai beaucoup de te parler, là.
Puis,
cheap shot!
Ouais, c'est ça, va-t'en. Puis, l'autre affaire, l'entrée de Chris Jericho.
Ouais.
Bravo, man. Oh, c'était très cool.
Très beau flash.
De Liz, puis avec son manteau, avec les lumières dessus.
Ouais.
Puis on n'a pas parlé de Cody Rhodes qui brise le trône de Triple H.
Hey, puis non seulement ça, mais excusez-nous, on s'en va un peu n'importe où, mais je pense que, tu sais, le show vraiment est venu nous chercher.
Ben oui,
tu sais,
il y avait 20 minutes qu'on en parle, on est content.
Il y avait tellement de bons points, mais le sledgehammer aussi que Brandy lui a donné pour spoof Triple H avec Stéphanie. Bret Hart, qui arrive avec la ceinture de la AEW.
La ceinture est magnifique.
La ceinture est magnifique, mais Bret Hart, pour vrai, là, c'est comme, tu sais, shots fired, là.
Oui, mais le MVP de la journée, là.
Mais tu comprends.
Oui,
shots fired, là.
Je comprends, shots fired. Okay,
on s'en va en guerre avec la WWE, là.
Je pense qu'on l'a compris quand Cody a éclaté le trône.
Absolument.
Moi, je te dis que la star, là, c'est MJF, là. La
MJF
promo qu'il a faite, là. Lui, là, c'est le. Lui, là, c'est. Il a 23 ans.
Écoute, quand il a dit, attention, il y a un fan qui arrive pour t'attaquer. Ah, je te niaise. Hey, j'ai vraiment ri, là.
Ri. Star et Hangman Page qui remporte le Battle Royale. Moi, je suis pas content qu'il ait dit avant que le gagnant du Battle Royale allait affronter le gagnant entre Omega puis Chris Jericho parce que, tu sais, Hangman, c'est le white meat babyface, là. Fait que je pense pas qu'il aurait affronté Omega qui est l'autre babyface. Je pense qu'il aura, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme Chris Jericho va gagner. Tu sais, quand Hangman Page a gagné, j'ai fait « Ah, ils m'ont spoilé la fin du show, tu sais. »
Moi, tu vois, je l'ai plus vu d'un point de vue sportif où si t'as deux personnes qui vont s'affronter pour un titre, tu le sais d'avance que ces deux personnes-là, s'ils gagnent leur combat, ils vont s'affronter. Au UFC, on fait souvent ça.
Ouais.
Des brackets de play-offs, de tournois, tu le sais d'avance. Je pense que d'un point de vue sportif, c'est plus là qu'ils ont voulu aller. Puis malgré ça, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de voir Jericho donc gagner. Donc, je pense que quelque part... je comprends d'où ils viennent avec ça.
On se comprend les deux. Mais là, John Moxley qui arrive, qui attaque Jericho, qui attaque l'arbitre et qui finit par attaquer Omega. John Moxley contre Omega, ça va être exceptionnel.
Ah, ça va être complètement
la
fou.
La promo qu'il a faite backstage, quand il dit « Ils vont tous venir à mes funérailles pour s'assurer que je suis mort pour vrai. » Ça, j'ai dit, il était où, lui? Puis, tu sais, vous écouterez le podcast avec Chris Jericho, il explique qu'il était où, là. En fait, il explique pourquoi il a quitté la WWE. Mais en fait, je pense que Vince a poussé Dean Ambrose à l'extérieur de la WWE. Il était plus heureux. Tout le côté créatif fitait pas avec lui. Je pense qu'il a parlé des writers, il a parlé des idées de gamins que Vince lui donnait.
Ah oui, il était pas d'accord avec les idées.
Oh ouais, il toujours trouvait, dans le bureau.
Il trouvait que c'était des idées là, qu'il faisait mal paraître.
C'est vrai.
C'était pas des bonnes idées, c'était de l'humour déplacé.
Ouais.
Je pense que le mois de novembre a été déterminant parce que quand il parle du Raw Los Angeles, quand il parle du Raw Milwaukee, c'était les deux Raw au mois de novembre dans la foulée de Roman Reigns. Et de l'annonce de son cancer.
Il a même dit, Vince voulait qu'il dise de quoi qu'il a totalement refusé de dire.
Ah, puis il a refusé de le dire au podcast aussi. Là.
Fait, à quel point ça devait être l'enfer ce que Vince lui a demandé.
Si j'avais dit ça, c'est le genre de phrase que ça aurait pu nuire à la WWE et à ses commanditaires.
Fait,
c'est pas rien. Là.
Il y a plein de petites choses que Dean Ambrose a dit que c'est des choses qui font vraiment rire Vince. Puis on l'entend tout le temps. T'sais. Vince a son humour à lui, Vince ceci, Vince ça. Mais d'entendre John Moxley en parler avec Chris Jericho, qui lui, écoute, lui, il a vécu ça pendant 20 ans avec Vince McMahon, là, pis il était pas surpris.
Mais tu vois, moi, j'écoute ça, je lis ça, pis tout d'un coup, ben pas tout d'un coup, mais ça répond à bien des questions des fois qu'on peut se poser sur ben comment ça se fait que ça se passe de même.
Ouais.
Ben ça vous donne pas mal de réponses.
T'sais, souvent, nous autres, on parle contre les angles, contre les lutteurs. Hey, voir qu'il a dit ça. T'sais, il faut juste qu'on se rappelle que c'est Vince qui parle. Là. C'est pas Dean Ambrose, c'est pas Becky Lynch.
C'est même pas Triple H.
C'est pas Triple H.
T'sais, Triple H a du power backstage, on s'entend, mais Vince a le dernier mot sur tout. Si Triple H arrive et il propose une idée à Vince, puis Vince veut pas, puis elle se fera pas l'idée, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, Vince a encore le dernier mot, puis on l'a dit, puis je le répète, je pense qu'il est vraiment temps que Vince laisse la place à quelqu'un de plus jeune avec des idées nouvelles, puis qu'il reste là comme conseiller spécial pour faire une transition. Mais bon, est-ce que ça va arriver? J'en doute.
Non, mais John Moxley à AEW. John Moxley.
Pour tous ceux là, qui disaient Dean Ambrose, là, c'était un work de la WWE.
Moi, c'est vrai.
Hey,
j'étais le premier devant à dire non. C'est vrai.
John Moxley, là, il est à AEW. Dean Ambrose, c'est fini. Puis l'affaire à Vince Russo, là, c'est de la merde.
On va le dire.
Exactement. On a même dit synchronisé. Wow. Ben oui, on est comme deux nageurs synchronisés.
J'aime vraiment pas ça. Arrête de parler comme moi, puis arrête de parler en même temps que moi.
OK.
Parce que j'aime pas ça.
OK, ça marche.
Pour vous donner un peu le portrait de John Moxley à AEW,
c'est donc bien fort ton bout en plus.
Je fais ce que je veux.
Colin.
Il est signé full-time pour plusieurs années dès cet automne. Il y a quelques apparitions à la New Japan Pure Wrestling. Il va affronter Juice Robinson dans la finale du Super Junior au Sumo Hall. Il y a aussi 5 matchs à la Northeast Wrestling, qui est probablement la ligue indépendante la plus populaire dans le Nord-Est.
Ben, c'est la moins régulière, mais qui attire
les plus grosses foules.
Ouais.
Il va affronter Darby Allin et Pentagon Junior. J'ai vraiment hâte de voir. Ben, en fait, j'espère qu'on va le voir à TNT. Pentagon contre...
Ben, moi, j'ai hâte de le voir, ton Juice Robinson. Je pense que je vais écouter la finale de Best of Super Juniors juste pour ça.
Pas
juste pour ça, mais t'sais, ça vient encore plus me donner de l'intérêt pour le show.
Parfait. Donc, Double or Nothing, un franc succès selon Pat Laprade et moi. Le meilleur match selon toi, vite?
Meilleur match, écoute, j'ai pas le choix de le donner aux Rhodes à cause de l'émotion, à cause de tout ce que ça l'impliquait.
Ouais.
J'ai de la misère à pas le donner.
On est les antipodes de la lutte, mais je vais être d'accord avec toi.
Mais il y a pas, t'aurais pu dire Lucha, Young Bucks.
Ouais.
Quelqu'un pourrait me dire Omega, Jericho. Il y a pas de mauvais choix là-dedans.
Allez-y.
Ouais.
Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Apple, Spotify, Stitcher et Google Play. C'est quoi votre match préféré de Double or Nothing? Et quel match vous aimeriez voir? Parce que là, on voit les line-up pas mal. On a vu ça dans le Battle Royale. C'est quoi le match que vous voudriez voir? Moi, je veux voir MJF affronter. Je sais pas qui, là, mais je veux voir MJF dans le ring puis faire des niaiseries.
All Out au Sears Center de Chicago, leur prochain pay-per-view, le 31 août, fin de semaine de l'Action de grâce.
J'ai le goût d'y aller.
Hey, écoute, j'allais dire exactement la même chose.
C'est le 31 mai?
31 août, Kevin. 31 attends. Mai, c'est vendredi.
Attends. Gars, je vais sortir mon horaire, là, parce que tu sais, avec mon show de Renault, je travaille beaucoup. Viens voir mes Renault sur Casa, gang. Vous allez triper. Le 31 août, on y va-tu, Pat?
C'est un samedi, le 31 août. On a congé le lundi, on pourrait partir le vendredi soir puis revenir le dimanche ou le lundi.
Mais regarde, ceux que ça leur tente, moi, j'ai de quoi, mais je vais l'annuler. Okay? Ceux que ça leur tente d'aller voir All Out, écrivez-nous sur Twitter.
La fête de ta blonde, anyway, c'est pas vraiment important.
Non, c'est mes kids, ils jouent.
T'as pas de kids, pas d'enfants.
Les joueurs de foot sont rendus collégiales, puis c'est leur premier match, je vais aller les voir, mais ils vont jouer longtemps. C'est que ça leur tente d'y aller, écrivez-nous. Si on se met une gang, ce serait le fun d'aller voir All Out, parce que je pense que c'est le début de quelque chose de grand, quelque chose de nouveau dans le monde de la lutte, puis je pense qu'on est vraiment chanceux d'être là.
Moi, je vais travailler sur nous avoir une paire de billets.
OK, parfait. Rey Mysterio, blessé. On va aller à la WWE, on a parlé de AEW. Ouais. Rey Mysterio, il est blessé pour de vrai. Donc, on va voir l'angle qui va se passer la semaine prochaine. Ara, il est supposé donner le titre.
Oui, parce qu'il est champion des États-Unis, ben oui.
Par la suite, AJ Styles aussi est blessé. Ils l'ont retiré du loop des house shows.
Ah, mais là, ça a été annoncé que AJ Styles est blessé au dos et qu'il risque de manquer entre 2 et 4 semaines d'activité.
C'est ça, un mois.
Ouais.
Mais il est sur la liste pour le Super Show, pour le Super SmackDown, excuse-moi, à Singapour.
Hey, combien de shows ils vont faire? Il va commencer par Super.
Je sais pas, man. Vince, il aime le mot Super.
C'est pas parce que t'as juste Super à quelque chose que c'est vraiment Super.
Ouais, mais je te confirme, c'est le Super Showdown qu'on va parler en ce moment. C'est pas Super Pantoute. Le Super Showdown, il y a Kevin Owens, Sami Zayn, Aleister Black et Daniel Bryan qui ont indiqué qu'ils n'iraient pas.
Non, 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 attends. C'est pas ça, Kevin. Kevin Owens et Daniel Bryan, ont indiqué à la WWE qu'ils n'iraient pas. Bon, Sami Zayn et Aleister Black ont juste pas été invités. Ah, Aleister Black, c'est une affaire avec ses tattoos, qu'il y a juste trop de tattoos pour le monde là-bas. Puis Sami Zayn, ben, le fait qu'il soit syrien d'origine et en plus canadien, parce que les Canadiens, ils sont comme à moitié les bienvenus en Arabie Saoudite. Donc, excuse-moi, j'ai pas le droit de le dire. Jeddah, c'est pour ça que Sami n'y sera pas. Mais pour vrai, props à Kevin de s'être tenu debout puis de dire non, moi, ça va contre mes valeurs, puis j'irai pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu l'angle avec Dolph Ziggler et Kofi, parce que le match devait être Kevin contre Kofi au Super Showdown.
Non, mais tant qu'à aller job à Jeddah, job à SmackDown, puis après ça, reste chez vous pendant que les autres sont en Arabie Saoudite. Là. Mais je salue le courage de Kevin Owens. Daniel Bryan, il suit la même lignée que la dernière fois, donc j'adore ça. Puis Aleister Black, Sami Zayn, le fait que Sami Zayn et Aleister Black peuvent pas y aller, là. Ça te montre à quel point ce show-là fait pas de sens. Là.
Ben, moi, j'ai longtemps... Puis il y a les filles qui sont pas là, évidemment.
Là, les filles sont pas là.
Moi, j'ai longtemps dit... Tu sais, si ça peut mener à ce qu'il y ait de la lutte féminine là-bas, à Jeddah, tant mieux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse par arriver, parce que sinon, c'est bien beau de dire on veut améliorer les choses de l'intérieur et non pas de l'extérieur, mais si tu finis pas par les améliorer, ben tout ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis à un moment donné, ben il faut que les choses bougent.
Hey man, ils ont 10 ans. Ils ont signé 10 ans. Ils ont 10 ans pour faire changer les choses. Avant de parler de Raw, SmackDown et de TakeOver, petite interlude. Mon truc préféré, l'interlude musicale. Yeah.
Hey, pour vrai, ça, c'est ton bout préféré.
Ben, il y a l'éphéméride, mais là, l'interlude musical passe devant l'éphéméride.
Si c'était dans nos contrats, je le ferais retirer, ça.
Non, l'éphéméride ou l'interlude musical?
L'interlude musical.
Laisse mon interlude musical tranquille.
C'est même pas un interlude. C'est pas assez long pour être appelé un interlude.
Oui, mais un interlude, c'est combien de temps dans le dictionnaire?
C'est juste un lude.
Ben, laisse-moi l'interlude musical.
C'est un lude musical.
Bonne petite batterie, bonne petite guitare. Raw, cette semaine. Brock Party.
Parlant de musique.
Brock Party. Brock Lesnar, là. S'il y a une chose qui vaut la peine de regarder à Raw, c'est Brock, OK? Brock, là, il a du sang afro-américain en lui.
Il a changé sa valise en boombox.
Et on dirait un patinet de Brooklyn, New York, qui arrive dans le ring.
De Brooklyn.
De Brock. Oh, boy, Pat Laprade.
Brooklyn, New York.
On va l'utiliser dans le show de lutte tantôt. Brooklyn, New York. Mais
sérieux, la musique qui ont utilisé. Hey. Ça, c'était vraiment mauvais, par contre.
Oui, mais ils ont fait exprès. C'est...
Je le sais, mais en même temps, oh, c'était mauvais. Tu peux pas avoir plus... tu sais, gars qui vient du Minnesota, Midwest américain, et qui a aucune coordination, et qui danse, mais vraiment comme un vrai blanc.
Ah
oh,
ouais, c'est white boy dancing, là. Ça, écoute, c'est, dans mon bal des finissants, j'en ai vu, puis Brock Lesnar ressemble à ça.
Même moi, j'ai les genoux plus mous que Brock Lesnar quand je danse. Hey, c'est fou.
T'as de la misère à te pencher.
J'ai de la misère à me pencher. Mais... Hey! Hey, c'est pas vrai, ça. Je me penche. Oui, c'est vrai. C'est salaud.
Mais non, Brock, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup où il s'en va avec lui. J'aime le fait que lui, il savait pas qu'il avait un an pour cacher le Money in the Bank. J'aime qu'il l'a appris en même temps que nous.
C'est parce que ça, ça a deux effets. Ça a l'effet de dire, OK, on va aller chercher de la heat parce que Brock se fout de ce qui se passe à la WWE. Ouais. Il n'écoute pas la lutte et il ne sait pas les règlements.
C'est pour ça qu'ils l'ont fait.
En même temps, c'est tellement stupide parce qu'il y a eu du monde qui ont caché in contre lui. C'est impossible qu'il ne sache pas que ça prenne un an.
Peut-être qu'il ne sait pas, tu comprends? Dans le sens que moi, ça fait du sens que Brock Lesnar ne sait pas, il n'écoute pas, il ne suit pas.
Il s'en rappelait plus, mettons.
Non, mais mettons là. Mon agent, c'est Martin Cloutier, pas l'humoriste, mais le vrai Martin Cloutier. Moi, des fois, on me dit des affaires, là. OK? Et je sais pas, moi.
Le vrai dans le sens qu'il est verified sur Twitter.
Oui, il est verified. Okay. Mais tu sais, dans le sens que les gens me disent des affaires, Martin, il sait. Moi, je sais pas.
Ouais.
Dans le sens que, tu sais, juste les antipodes de la lutte, des fois, je suis comme OK. Mais demande à moi. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben,
Martin... Mais ça, c'est pas vraiment une référence parce qu'il y a des affaires que moi, je sais, puis toi non plus, tu sais pas.
Oui, mais dans ça, c'est... Ouais, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, Martin Cloutier, c'est Paul Heyman. Ouais. Moi, je suis Brock Lesnar. Je sais pas que t'as un an pour cacher de le.
Brock Lesnar avec du beat.
Avec du beat. Moi, j'ai beaucoup aimé ce angle-là. C'est vraiment
c'était drôle. C'est vraiment drôle. On dirait qu'on est en train de réinventer Brock. Donc, pour tous ceux qui ont chialé que Brock revenait et tout ça, puis bon, c'est correct. Tu sais, le monde s'attendait. Tu sais, je persiste à dire que c'était pas le meilleur choix pour Money in the Bank parce que je pense que ce show-là, il devait créer une superstar. Ça leur prend des stars. Ouais, et ils sont pas capables d'en créer. Je pense que le Money de Bank, c'était la plus belle occasion d'en créer une. Drew McIntyre, Andrade, quelqu'un comme ça, c'est eux qui auraient dû gagner pour être créé des stars. Là, Brock, au moins, c'est divertissant. Money in the Bank, là, tu savais-tu que Ali, là, il s'est fait dire toute la journée et que tout le monde, à part que tous ceux qui étaient dans le match, ils croyaient qu'Ali remportait la valise. Et que les gars dans le match, les sept autres, ne savaient pas que Brock arrivait à la fin. Guys, on est en 2019, c'est scripté, c'est du théâtre extrême. Je veux dire, c'est scripté, donner le script à tout le monde. Si toi, tu fais un show, là, puis il y a une personne dans le lot, là, qui l'a... Tout le monde a le script, sauf une personne. Puis elle sait pas ce qui s'en vient. Si tu veux maximiser la performance de tes gars et tes filles, donne-leur toute l'information. Joue pas un effet surprise comme ça. Pourquoi tout ça pour pas que ça leak? Come on!
Ouais.
on!
Come on!
C'est beau, là? T'es
ouais,
content?
Là, je suis content.
C'est bon, mais parfait.
Mais pour vrai. Mais au moins, Brock, continue. C'est divertissant ce qu'ils font avec lui en ce moment. Puis ça, j'aime ça.
Le segment Electric Chair de Sami Zayn. Sami qui prononce les lettres E-I-W. Moi, je pense que Sami essaie de se faire fire. Ce segment-là est potentiellement très bon. Il a juste été mal exécuté.
C'est potentiellement un fiasco.
Non, je te dis,
c'est mal exécuté. C'est un recipe pour la chose la plus atroce qu'on va voir à chaque semaine le show.
Je te dis que ça a été mal exécuté, puis que je pense que Sami s'attendait à avoir une question sur AEW, est jamais venue. Puis je pense qu'il avait préparé une bonne réponse là-dessus, puis la question est juste jamais venue, puis ça a fait en sorte... Je pense que le segment était bâti pour...
Mais ça, je vais finir par avoir les réponses là-dessus. Je les ai pas encore eues, à savoir si c'était scripté, pas scripté, ou ce qui s'en allait avec ce ligne-là. Mais indépendamment du commentaire de AEW, je veux dire, mettez des plaintes. Demandez pas à des vrais fans. Des plaintes dans la foule qui vont poser des questions que vous voulez poser. Laissez pas ça au hasard parce que ça crée des moments vraiment awkward. D'ailleurs, j'ai fait un story où j'ai demandé aux gens est-ce que c'était genre la meilleure idée ever ou c'était un peu awkward. Et majoritairement, là, les gens ont répondu un peu awkward. T'as le fan qui est que... c'était-tu une fille? Je pense que c'était une fille qui avait... Oui, c'était une fille qui a posé une question sur Becky Lynch.
Ouais.
Et à un moment donné, elle a voulu reprendre le micro. Ouais. Et une chance que l'autre l'a pas laissé faire, mais ça va être des moments. Je veux dire, il y a des fans qui vont aller un peu plus loin avec
comprends.
Ça. C'est de la télé live.
Je comprends.
Vous êtes pas pré-enregistrés, là.
Mais j'aime le fait qu'on prend ce risque-là. On dit que la WWE prend pas de risque. Ça a mal été exécuté. S'il y avait eu des plaintes, on aurait dit, ouais, mais c'est des plaintes.
Mais il y a d'autres priorités avant.
Ça va-tu, ta voix?
Écoute, ma voix va revenir au. Ma voix va revenir.
Donc, il est de retour!
Il y a d'autres priorités sur lesquelles la WWE devrait se pencher avant d'essayer de faire un segment interactif avec la foule qui va foirer de semaine en semaine.
Je te le dis,
j'y donne pas un mois à ce segment-là, puis ils vont l'arrêter.
Moi, je te dis juste que je trouve que c'est une belle initiative. Ils ont essayé quelque chose, ils l'ont mal appliqué. On passe à autre chose.
Mais on passe à autre chose.
La ceinture 24/7.
Parlant de bonne idée.
Ben, OK. Bon. Là, il faut que les gens comprennent là, que la ceinture 24/7, c'est pas supposé être le Universal Championship.
C'est une joke.
C'est juste pour les en bas du mid-card. Okay? OK? C'est juste pour mettre les gens sous le show, puis que c'est un comedy title. Puis c'est R-Truth qui l'a, puis il fait très bien depuis deux semaines.
Mais c'est pas ça que la WWE a besoin. La WWE d'avoir des stars, a besoin d'avoir des codes d'écoute. Fait que pourquoi leur priorité, c'est ça?
Mais je te dis pas que c'est leur priorité.
Ben, visiblement, oui.
Pas du tout.
Ben voyons, si toi, dans tes idées, tu fais comme, OK, toi, là, t'es une équipe de hockey, t'as besoin d'un centre numéro un. OK? Puis au lieu d'aller chercher un centre numéro un, là, tu t'en vas chercher un joueur de quatrième trio là, qui va
Ce que Marc Bergevin a fait depuis 10 ans?
Ben, exactement.
Sauf que...
C'est quoi que t'as besoin? C'est un centre numéro un, c'est une star que la WWE okay. a besoin.
Moi, je parle l'avocat du diable.
C'est un titre de plus. Déjà qu'ils ont trop de titres, il y en ajoute un. C'est une joke, c'est un comédie. C'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est pas ça qui va attirer les ratings. C'est pas ça qui va faire en sorte que le monde switcheront pas à AEW cet automne.
Bon, là, je vais t'éduquer un peu, là.
Tu vas m'éduquer?
Je vais t'éduquer un peu, là.
Hey, un peu de respect quand même, Raphaël.
Non, mais là, à un moment donné, il faut mettre les points sur les i, là.
T'as quand même misère à épeler comme du monde. Tu mettras pas de grands points sur aucun i.
AEW, c'est
fait. Ah ouais, vas-y.
La WWE, ils ont pas besoin de stars. Dans le sens que...
Quoi?
Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé dire tout ton vomi. Quand on dit la WWE doit aller chercher une star, aller chercher un centre numéro 1, ils sont chez eux. Ils sont là. Les Gargano sont là, les Adam Cole sont là, les Seth Rollins sont là, les Samoa Joe sont tous ici. Ils sont juste bookés tout croche.
Je suis d'accord avec toi.
Mais ils sont tous là.
Oui.
Donc, si on améliorait le booking de ces stars-là, ça irait mieux. Mais à la fin de la journée, il faut continuer à builder ceux qui sont en train de manger à la cafétéria tout le temps.
Non, ta priorité devrait être justement de créer ces nouvelles stars-là avec le roster. Quand je dis créer des nouvelles stars, je veux pas aller chercher quelqu'un d'ailleurs. Je veux qu'on utilise ceux qu'on a présentement dans notre roster ou à NXT. Mais ta priorité devrait être ça. Ta priorité devrait pas être en train de booker un 24/7 title qui est une vraie joke. C'est une joke.
Ben, c'est ça, là. C'est une joke et c'est correct de même.
Non, parce que c'est ça qu'ils voulaient.
Puis là, en même temps, on dit que la WWE crée pas des stars. C'est qui les main events? C'est les Seth Rollins, c'est Drew McIntyre,
McIntyre qui est pas considéré comme une star.
Oui, mais il est dans le main event.
On s'en fout, Baron Corbin est dans le main event, mais c'est pas une star.
Mais il fait partie des stars actuelles de la WWE.
Les vrais stars, là, c'est des gens qui vont faire bouger les ratings, qui vont faire bouger
Brock
les gens.
Brock Lesnar, c'est pour ça qu'ils le ramènent, c'est pour ça qu'ils ont donné le Money in the Bank.
C'est un plaster, Brock Lesnar, parce que t'es pas capable d'en créer des nouvelles, tu ramènes
celle que t'as. Mais là, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que là, tu dis, là, il faut créer des stars qui font bouger le needle. Mais c'est soit tu crées des stars ou soit tu fais bouger le needle. Tu peux pas faire les deux en même temps.
Mais non, mais faut que tu leur laisses le temps.
Tu peux pas faire les deux en même temps.
C'est pour ça que le Money in the Bank est important. C'est pour ça que c'est important de le donner à quelqu'un qui va devenir une star. Kofi Kingston, là.
Ouais.
C'était-tu une star avant il y a 8 mois? C'était un gars de mid-level comme il y en a beaucoup à la
WWE. C'était upper mid.
Kofi Kingston était plus populaire
que Finn Balor il y a 8 mois.
Je suis d'accord.
Il était plus populaire que ben des
gars. Dans le upper mid, je vais te le donner. Est-ce que c'était une star? Non.
Ben oui, c'est une star.
Il est devenu une star
Il
est devenu une star quand on l'a poussé.
Il y a une différence entre une star et une superstar.
La WWE a besoin des deux.
Ben, il y en a des superstars. Non, Roman Reigns, Seth Rollins. Finn Balor, c'est pas un superstar, c'est une star. Puis.
Finn Balor, il est pas booké comme une star du tout.
Il est champion intercontinental.
C'est pas parce que tu mets un titre sur quelqu'un que ça devient une star. Les Iconics sont championnes par équipe et ils sont bookés comme de la merde.
Je comprends, mais là, je te parle du championnat intercontinental qui a une lignée. Ben non, parce que c'est un des titres les plus importants. C'est le troisième titre le plus important.
Mais c'est pas parce que t'as un titre important que t'es booké dans le même sens que le titre. La WWE a besoin de créer des stars que le monde vont être attaché, que le monde vont vouloir payer pour aller voir. Puis ça, il y en a pas beaucoup présentement.
Mais c'est pour ça que
il y a besoin d'en créer plus. Il n'y a pas besoin de mettre des énergies sur une chaise électrique ou sur un titre 24/7. Ben oui, mais je te donnerai jamais les règles d'une promotion de lutte.
Mais non,
mais j'espère que t'avais déjà compris ça.
Son 904 writers, ils vont pas tous writer pour Roman Reigns, là. À un moment donné, le show, il dure 3 heures de temps. Le show, il y a 16 segments. Seth Rollins peut pas être dans les 16. Moi, Andrade peut pas être dans les 16. Drew McIntyre peut pas être dans les 16.
Le 24/7, là, c'est une idée qui découle d'il y a 20 ans avec le titre hardcore. Et à ce moment-là, il y en avait des vedettes. Puis à ce moment-là, il y en avait des stars. Puis à ce moment-là, il y en avait des superstars.
Ils ont été les chercher partout, les vedettes et les stars.
Ils ont été les chercher
dans les autres promotions.
Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, de donner un titre 24/7 pour le reste, oui, je suis pleinement d'accord. Mais à la base, il faut que tu règles en haut avant de commencer à penser en bas.
Moi, je te dis que. Mais non, man,
ben oui.
Tu travailles sur tout,
ça
là.
Ça donne quoi d'avoir 8 joueurs de quatrième trio si t'as pas une première ligne avant de marquer des buts?
Ben, ils en ont une. C'est juste qu'il faut que tu choisisses si tu veux bouger le needle ou si tu veux builder des stars.
C'est moment, la même chose. Non, les deux vont les deux. Dans la main.
Tu peux pas, tu peux pas faire les deux. Tu peux pas me donner Ali dans le main event quand les gens le connaissent même pas.
Fait que dis-moi le 24-7, en quoi ça vient, un, bouger le needle, deux, créer des stars. C'est zéro pour les deux.
Le 24-7,
zéro pour les deux.
Mais c'est pas ça, ça c'est pour ça que je suis là. C'est une transition. Puis le main event de SmackDown cette semaine, avec le 24-7, ça a super bien marché. Il y a eu un super gros pas pour R-Truth à la fin. Feel good moment. C'était excellent. Là.
Fait que R-Truth, c'est ta star.
C'est
ta solution.
Je viens de dire que le 24-7, c'est une joke. Mais.
Fait que c'est une joke. Pourquoi ça main event SmackDown?
Parce que le angle était bon. C'était le angle de la deuxième.
Fait que R-Truth, c'est une star.
Ben, R-Truth, en ce moment, c'est le gars qu'on voit le plus à la télévision à WWE.
C'est triste.
Ben, oui, c'est triste, mais il fait bien.
Les ratings vont augmenter. D'ailleurs, les ratings de Raw cette semaine étaient affreux.
Je te dis pas que ça va augmenter.
Fait que toi, tu t'en fous d'augmenter, tu veux juste une joke. La WWE a besoin d'avoir plus de monde dans ses arénas. Ils ont besoin d'attirer plus de monde à la télévision. Et ils concentrent leurs énergies sur une chaise électrique 24/7.
Ils concentrent pas leur énergie, c'est un segment qu'ils amènent.
Ben,
ils concentrent leur énergie sur Brock Lesnar. Ils ont tous changé le gimmick de Brock. Ils ont sorti un chandail. Il a été sur deux segments. Après ça, ils concentrent ça sur Becky Lynch.
Okay, puis après sur Charlotte, Super Showdown,
la division
Brock.
Féminine. Ils ont tous concentré ça là-dessus. Là. On n'a pas vu une fois Undertaker. On n'a pas vu une fois Goldberg. Ils en ont parlé. On n'a pas vu Triple H qui se pogne avec Randy Orton parce qu'ils vont se battre au Super Showdown. Non. Ils nous ont montré des vidéos patchées parce qu'ils savent qu'après Super Showdown, on n'en parlera plus.
OK, mais Brock, on va-tu le revoir après Super Showdown?
Mais Brock, il est Money in the Bank. C'est quand correct. Il va apparaître, là, les gens vont en parler. Puis c'est pour ça que c'est lui qui a gagné le Money in the Bank. C'est pour ça que quand il a gagné le Money in the Bank, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je suis pas nécessairement d'accord, mais je comprends la décision.
Je comprends la décision. Je veux juste te dire que...
je trouve que c'est une bonne idée.
Ils ont manqué l'opportunité de créer une nouvelle star avec leurs lutteurs qu'ils ont présentement. C'était le moment parfait d'en créer une nouvelle star.
C'est pas ça leur but, mais en ce moment, leur but, c'est de bouger le needle.
Clairement, ils n'ont pas le bon but, mais ils ne bougent pas le needle.
Mais je comprends qu'ils ne bougent pas, mais il faut qu'ils essayent.
Ils ne bougent pas le needle.
C'est pour ça qu'ils essayent des nouveaux segments, parce qu'ils se disent...
Brock, c'est juste un plaster. Brock, c'est une solution à court terme.
OK, changeons ça. Dans l'Electric Chair, si c'est Kevin Owens qui est dans l'Electric Chair, ce segment-là est 100 fois meilleur. Je m'excuse pour ça. Samy est très bon, là.
Ça demeure le même awkward de la part de la foule.
Oui, mais Kevin aurait été 100 fois meilleur que Samy. Parce que Samy, clairement, il attendait la question sur AEW. Puis
je sais pas encore. Ça, je vais revenir.
Mais en tout cas, Kevin aurait été meilleur que Samy là-dessus. Puis c'est juste que malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Puis c'était une bad luck. Tu peux pas créer des moments tu peux pas tout le temps avoir des bonnes idées. Le 24-7, ça marche très bien en ce moment.
Ça
marche.
Oui, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin.
Mais je te dis pas c'est ça qu'ils ont besoin.
On en a assez parlé, on va passer à autre chose.
NXT 25.
On est pas rendu à NXT 25.
Dude, il nous reste presque plus de temps parce qu'on s'est ostiné sous le foutu titre 24-7.
Je peux même pas te mentionner à quel point Lacey Evans a été mauvaise à Money in the Bank.
Tu parles?
Ah ouais, Lacey Evans?
Hey!
Elle était une seconde en retard sur tout. Elle a botché deux moves.
OK, bravo.
Attends une minute. J'ai questionné mes amis journalistes américains, canadiens, anglais là-dessus. Meltzer, Brian Alvarez et ton préféré, John Pollock.
Oh my God, Pollock.
Pollock, les trois.
Ouais, ouais.
D'accord avec ce que je disais.
D'accord.
Les trois, Lacey Evans a mal paru, elle a été mauvaise dans le match à Money in the Bank et clairement, elle n'est pas prête à être là encore. Dites-moi ce que vous en pensez de Lacey Evans sur Twitter.
Tu veux disrespect Lacey Evans?
Je ne la disrespecte pas. Elle n'est pas encore rendue là.
Tu veux disrespect
Lacey
Evans?
Elle a du potentiel. La pousse trop vite. C'est la WWE que je blâme là-dedans. C'est pas elle.
Maintenant, on pousse les gens trop vite. On veut créer des stars. Il faut créer des stars.
Il y en a des stars qui sont prêtes.
Maintenant,
il y en a des stars qui sont prêtes.
Là, on pousse du monde trop vite. Là, il faut pousser du monde. Mais là, on les pousse trop vite. Mais il y en a des stars.
Kevin, ça se passe tellement à un autre niveau que toi-même, t'es pas T'es juste pas prête pour ça. Je te donnerais même pas les clés d'une fédération locale ici au Québec parce que c'est clair que tu l'envoies underground.
Je pense pas, moi.
Le
Fire Fun House Festival.
Oh, un autre belle idée, ça.
Ben, ça va très bien parce que c'est leur meilleur segment à chaque semaine. Juste que tu l'aimes pas.
Hey, tellement un bon segment. Okay. C'est tellement de ça qu'ils ont besoin. Un gars qui lutte pas.
Hey, ça me tente plus de parler de un Rock gars qui lutte pas. Ça me tente plus. Ça me tente
wow! Quelle hey, bonne idée.
Hey, là, ça fait longtemps que j'ai pas été fâché.
Hey,
j'ai le cœur qui bat tellement là, vite. Là, je suis fâché.
Pour vrai, là.
Oh, hey, my God.
Par là, là, la Kevin Raphael Wrestling. Hey, ça va marcher. Avec ta façon de penser, ça va marcher.
This NXT is going takeover. To be bad.
NXT Takeover 25.
Johnny Gar... Hey, man!
C'est samedi, là. C'est le 1er juin, là. Ça arrive. Ça arrive à grand pas, là.
Bon, les matchs, Johnny Gargano contre Adam Cole pour les NXT Championship. Je pense qu'on garde ça sur Johnny. Par contre, je serais heureux de voir Adam Cole remporter le titre, là.
Ben, je pense qu'un ou l'autre, on pourrait trouver des points positifs c'est à ça. Ça, mais je pense que ça va être tout un match, là. Je m'attends à un gros match. Je vais y aller avec Adam. Je pense que c'est le temps de le donner à Adam
ouais,
Cole.
C'est ça. Moi, je pense que c'est Adam
Cole. Puis peut-être que Gargano pourrait revenir sur le main roster aussi. Peut-être qu'on attend ça, là. Tu sais, c'était pas prévu avec, ben, c'était prévu, mais avec la blessure de Ciampa et tout ça. Donc, j'espère que Gargano va monter sur le main roster. Victoire de Cole. Vas-y.
Shayna Baszler face à Io Shirai.
Baszler l'a eu depuis assez longtemps. Je pense que la donner à Io Shirai, ça pourrait pas être vilain.
Je suis d'accord avec toi. J'adore le angle que je vois entre Baszler, sa gang, puis Io Shirai. Ouais. Moi, j'aime le fait qu'il est arrivé avec un candlestick la semaine passée. Là, je trippe. Le candlestick était plus grand qu'elle est arrivée, puis elle souillait comme s'il était Barry Bonds. Là. Moi, j'adore.
Mais Io Shirai, ça a été pendant longtemps la meilleure lutteuse à ne pas faire partie de la WWE.
Ouais, puis elle
que ça le démontre, oui.
My God, Velveteen Dream face à Tyler Breeze. Je suis tellement content qu'ils mettent Tyler Breeze en NXT. Juste pour rafraîchir la mémoire des gens, là, puis rappeler aux gens que ce gars-là, c'est une méga star, là. Ben, contre Velveteen Dream, ça va être un excellent match.
Pour vrai, moi, je suis content qu'ils prennent la peine, justement, des gars qui ont plus rien sur le main roster pour eux. Ben, ils peuvent les ramener à NXT, puis sont souvent des plus gros stars quand ils reviennent ben oui. à NXT parce qu'ils ont eu le main roster. Fait que moi aussi, très, très content de voir Tyler Breeze. Je pense qu'on va garder ça sur Velveteen Dream quand même.
À date, on est d'accord partout. Undisputed Era, Street Profit, Forgotten Son qui sont pourris. Là. Puis Oney Lorcan et Danny Burch pour le NXT Tag Team Championship.
Écoute, j'espère qu'on va garder ça sur Undisputed Era parce que je vois pas une de ces trois autres équipes-là.
Ils sont pas champions, les champions de championship sont vacants. Moi, je pense
ah oui, excuse-moi. Oui, excuse-moi.
Moi, je pense que c'est Street Profit qui vont gagner.
Mais j'espère, en fait, qu'on va donner ça à Undisputed Era.
Mais ça
parce
dépend.
Que...
Ça dépend parce que si Adam Cole gagne, mais je veux voir la stable au complet avec
oui,
les championships.
Absolument.
Roderick Strong, ils finissent par battre Velveteen Dream. Fait moi, je pense que les Street Profits là, sont rendus là. Je trouve que le gimmick est très bon. Je pense que ça pogne en ce moment. Donc, moi, j'irai avec eux autres.
OK.
Toi, tu vas avec Undisputed.
Yes.
Et Matt Riddle, que je porte maintenant dans mon cœur face à Roderick Strong.
C'est New York qui t'a fait porter
ouais,
Matt Riddle dans
ouais,
ton cœur. Je
ouais, fait que, moi, je vais avec Matt Riddle. Là. Je pense
moi,
que je vais le lancer.
Moi, je vais avec Cole, Undisputed Era et Roderick Strong.
OK, fait que toi, c'est le Undisputed Era Knight.
Je suis all-in avec ces quatre-là. Surtout que je pense pas qu'on les envoie sur le main roster bientôt. On a besoin d'eux à NXT pour attirer plus de foule. Alors, j'y vais avec eux autres.
Rapidement, Pat, ton éphéméride.
Hey, on fait même pas les questions.
On va les faire à la fin.
Parfait. Éphéméride, écoute, ben là, on va changer de ton. Le 23 mai dernier, ça faisait 20 ans. Kevin, que Owen Hart nous a quittés.
Ouais.
Malheureusement, un accident à Kansas City lors d'un pay-per-view. Owen Hart en blue blazer devait faire une cascade où il partait du plafond, un peu comme si vous vous souvenez le Sting comme il faisait. Puis l'harnais a été mal clippé ou il a déclippé. Et Owen a fait une chute de plusieurs dizaines de pieds et est mort. Bon, en fait, presque sur le coup, son décès a été constaté plus tard, mais ça a été un moment très, très triste dans l'histoire de la lutte. Owen Hart qui était tellement, mais tellement aimé du public et aussi aimé du backstage. Là. Il y avait pas d'ennemis Owen Hart. Et puis, pour vrai, un événement qui était triste. Si vous avez une chance, tu parlais de John Pollock tantôt. Post Wrestling a fait un documentaire audio sur la dernière journée d'Owen Hart. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et il y a aussi, tu parlais tantôt de Chris Jericho sur son podcast qui a reçu Dave Meltzer puis qui en ont parlé. parler en long et en large de la carrière d'Owen Hart. Donc, ouais. Si vous voulez en savoir plus, là, pour ceux qui l'ont peut-être pas connu ou moins connu, on vous le conseille fortement. Mais pour vrai, ça fait déjà 20 ans, c'est complètement fou. Owen qui aurait été, je crois, une grande vedette à la WWE.
En fait, Owen était meilleur que Bret. Là, je m'excuse. Là. Owen dans le ring était meilleur que Bret Hart. Il avait une meilleure personnalité. Il avait... Owen, là, c'était... Quand il est décédé, puis moi, je suis plus jeune, là, fait que j'ai pas vu les bonnes années d'Owen Hart. Puis je sais qu'on va bosser le podcast, mais je veux... J'ai pas vu les bonnes années... Puis moi, je retournais voir les tapes, puis j'étais comme, à quel point ce gars-là, il est bon, à quel point il est charismatique, à quel point j'aimerais ça être l'ami d'Owen Hart, à quel point ce gars-là, il est drôle, à quel point il me tape ses nerfs, à quel... Puis je te dis, Owen Hart, c'était mon premier idole. C'était mon premier Shawn Michaels, c'était mon premier... Wow. Puis, je suis retourné le vendredi écouter des vieux matchs de lui.
Ouais.
Puis, man, ce qu'il faisait dans le ring, là, c'est 205 Live en ce moment. Là. Il était tellement en avant sur son temps. Fait que moi, je suis un gros fan d'Owen. Puis, en tout cas, je sais que c'est problématique avec Martha puis tout ce qui va se passer. Mais j'espère, man, qu'on va pouvoir juste pouvoir le dire à voix haute qu'on est fier d'Owen. Ouais. C'est long, on se le dit entre nous autres en cachette parce qu'on peut pas le dire à voix haute. Mais j'espère qu'un jour, on va pouvoir le dire.
J'espère que sa veuve, Martha, qui bloque l'entrée d'Owen au Temple de la Renommée. Ouais. Donc, j'espère qu'un jour...
Puis en même temps, je la comprends aussi. Écouté le podcast, je la comprends encore plus.
Non, absolument.
Rapidement, les questions du public.
Oui.
Alexandre Tifot qui demande sur quel membre du roster actuel de la E fonderait vous la compagnie autour et comment?
Écoute, un gars, c'est sûr qu'un gars comme Seth Rollins doit être dans le mix, mais moi, ben, en fait, c'est-tu juste un? Ouais,
c'est un
membre.
C'est qui ton
vas-y en premier. Vas-y en premier.
Moi, je pense que j'irais avec Adam Cole, bébé.
Ah, ouais?
Ouais, Adam Cole, bébé, c'est ma star.
Ah, OK. Moi, tu vois, je pense que j'irais avec un gars comme Tommaso Ciampa.
Tu vois, c'est fou, hein? Ils sont même pas sur le main roster.
Ils sont même pas sur le main roster.
OK, parfait. Mark OTM Baraba
Mark, on va l'appeler Mark.
Mark, hein? Voyez-vous John Cena quitter la WWE pour AEW, un peu comme le fait Hulk Hogan vers la WCW?
John Cena?
Aucune chance.
Non, il s'en va nulle part, John Cena.
Prochaine question. Nelson Sid, donc deuxième tweet. Nelson, t'es chanceux. En fait, oui, j'ai une question. Trouvez-vous pas que la WWE fait penser à la WCW vers la fin?
Écoute,
jusqu'à ce point-là.
Non, pas jusqu'à ce point-là, mais il y a des choses qu'on dirait des fois qui prennent les mauvaises tournures.
Ouais, mais eux, c'était terrible.
Mais non, c'est pas encore rendu là.
Nelson, retourne voir du WCW 2000-2001, là, on s'en reparlera.
Mais je peux comprendre sa question, par exemple.
Je comprends aussi. Et dernière question, c'est Alex Method qui dit la AEW... AEW devrait s'intéresser à quel talent québécois et canadien?
Ah ben écoute, TDT, la tabarnouche, la tabarpip de team, ouais. Mathieu Dubois, Thomas, ouais. Mathieu Dubois, ça fait deux fois que je fais cette erreur-là. Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, Mike Bailey.
C'est exactement, c'était mon choix.
Mais Mike Bailey, pour l'instant, peut pas lutter aux États-Unis, malheureusement. TDT, ça serait mes choix là, maintenant. Je pense que c'est deux gars qui devraient être là.
On est là, on est d'accord là-dessus. Et je rappelle mon histoire pour TDT. Je les ai DM sur Facebook parce que je suis un gros fan d'eux autres. Je leur ai dit qu'ils étaient full bons. Ça fait comme deux ans et ils m'ont jamais répondu.
Ils ont bien fait, m'aller les féliciter la prochaine fois.
Les boys, vous pouvez aller prendre une marche et jamais revenir. Sur ce, ça m'a fait...
Prendre une marche vers la AEW, peut-être.
OK, prenez une marche vers la AEW. Ça m'a fait au podcast. N'oubliez pas de donner 5 étoiles, 5 Star Frog Splash. N'oubliez pas d'aller mettre des commentaires sur iTunes, Google Play, Stitcher et... Spotify!
Oh, tu l'as eu! C'était encore une fois les antipodes de la lutte. Pat Laprade, Kevin Raphaël, on bosse le temps. Cube Radio, on a besoin d'un show à chaque semaine.
À chaque semaine,
Laprade! Ah, Kevin, tais-toi! On se revoit, c'est un rendez-vous!
À chaque semaine, Pat Laprade! On a besoin d'un podcast à chaque semaine!
Coupe le son, là!